Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Adieu 2017 et que 2018 exauce vos vœux les plus chers. Bonne, très bonne année, chers auditeurs et auditrices, en ce premier mois de l'année 2018. Alors, des nouveautés pour cette nouvelle année, des chroniques littéraires, des pauses littéraires. Donc, deux chroniques par mois avec Dominique Lain, que vous pourrez retrouver la première et troisième semaine sur le 102.2. Et deux fois par mois, je vous propose à mon tour des pauses littéraires, donc la deuxième et quatrième semaine, avec la lecture d'un extrait de roman ou de cœur d'un auteur. Alors ces deux rendez-vous, vous pourrez d'ores et déjà les noter sur vos agendas. Donc ce sera les 4 lundis et mardis du mois. Deux passages pour les lundis à 10h10 et 14h35 et pour les mardis 8h10 et 12h45. Alors si vous voulez plus de détails sur tout cela, vous allez sur notre site web www.rtvfm.net. Mon premier invité dans cette première émission de l'année, Franck Petit. Franck que j'ai rencontré dans le cadre de la foire de Saint-Siffrin. Il était là sur un stand et nous avons parlé littérature. Et c'est là qu'il m'a avoué avoir écrit et publié, seul et en collaboration aussi, une vingtaine d'ouvrages juridiques et historiques. Plus de 250 articles. Il a entre autres écrit un livre sur notre belle montagne vauclusienne, le Ventoux. Le titre de ce livre, Envoûtant Ventoux, aux éditions universitaires d'Avignon. J'ai donc eu envie de vous faire découvrir cet auteur passionnant qui nous a parlé principalement de Envoûtant Ventoux. Pour vous dire quelques mots sur cet ouvrage, il est composé de témoignages, reportages, faits historiques, photographies prises par l'auteur. Un livre de 10 chapitres, tout un chapitre sur le Ventoux, vu par les artistes peintres, photographes, sculpteurs, écrivains, poètes. Un chapitre sur la flore et la faune du Ventoux. Voilà, donc l'auteur Franck Petit nous commente aussi quelques points forts sur l'histoire du Ventoux, qu'il développe en nous disant que le Ventoux a été reconnu en 1990 réserve de biosphère, Cita Natura 2000 en 2010 et réserve biologique intégrale en 2010 aussi. Voilà, donc nous allons écouter juste après cette première pause musicale l'interview de Franck Petit. Cette pause musicale, c'est avec Francis Cabrel qui nous interprète Il faudra leur dire.
Parfum qu'on respire. matins d'hiver. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors
il faudra leur dire
les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire.
Facile à faire.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Alors j'invite donc là au micro de RTVFM Franck Petit. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors Franck, bien nous nous sommes croisés un petit peu là dans les stands de la foire, donc sous le grand chapiteau. Il m'a parlé de ce qu'il avait fait, donc il a écrit un livre qui s'appelle Envoûtant Ventoux. Alors comme nous sommes nous des passionnés, n'est-ce pas, de cette belle montagne qu'est le Ventoux. Donc j'ai demandé à Franck de venir nous parler de son livre. Donc il a écrit un très beau livre avec des photos à l'intérieur. Et aux éditions, donc Franck, aux éditions...
Universitaire d'Avignon. C'est une maison d'édition qui a été créée à l'Université d'Avignon, créée par l'ancien président Emmanuel Etis, et puis qui développe une collection aussi sur le patrimoine, et notamment le patrimoine local, départemental.
Alors moi, quand j'ai lu un petit peu là votre quatrième de couverture, bon, vous avez un côté poète aussi en même temps.
Hein? C'est vrai que ma spécialité est initialement l'enseignement du droit.
Oui.
Mais j'aime beaucoup aussi écrire en histoire de l'art et en histoire géographie. Mmh. Et ça a été l'occasion pour moi de consacrer donc un ouvrage entier à cette montagne que je connais depuis plus d'une trentaine d'années.
Vous êtes d'où, excusez-moi Franck, vous êtes de quel village?
Alors moi je suis originaire donc de Normandie et je me suis marié à Carpentras. Et je suis installé dans le Vaucluse depuis une dizaine d'années. Et en fait, la proximité de cette montagne fascine.
Oui.
J'ai eu envie de la découvrir, de la connaître aussi à travers les archives, mais pas seulement aussi rencontrer des gens qui la connaissent depuis toujours et qui livrent quelques secrets sur cette montagne qui est très riche, bien sûr, d'un point de vue biologique, d'un point de vue écologique, mais aussi du côté des pierres, du climat, de la neige, de la végétation, bien sûr, de la faune et de la flore. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est de voir comment cette montagne a été transformée en plus d'une centaine d'années. Elle avait été, non pas détruite, mais dévastée par ces opérations de déforestation tout au long du...
À quel moment, à peu près
Du 14e siècle au 19e siècle.
D'accord.
Voilà. Elle avait été donnée par le seigneur de Bédouin aux habitants de Bédouin. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'historiquement, la face sud appartient à la commune de Bédouin. Et les habitants ont pu l'exploiter, y mettre des moutons, mais en même temps aussi couper du bois. Il y a eu donc un grand nombre de charbonniers sur cette montagne. L'exploitation du bois était source de richesse, mais on n'a pas vu venir le danger. Et on s'en est rendu compte au 19e siècle, lorsque les eaux de pluie ruisselaient et menaçaient les villages environnants, et notamment Bédouin. Et Bédouin est une des premières villes à avoir pris l'initiative de planter de nouveau le Ventoux. Alors attention, c'est un contexte qu'on va dire plus national, puisque l'État aidait à ce type de plantation. Et la ville de Bédouin a saisi l'occasion. les financements d'ailleurs aussi étatiques, mais il faut dire quand même que cet effort est principalement municipal. Les habitants de Bédouin étaient sollicités pour replanter des chênes, pas seulement des chênes aussi, hein, des hêtres et puis aussi des le cèdre de l'Atlas, hein, qui est une des richesses du Mont Ventoux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors je voudrais juste lire un petit peu là le quatrième de couverture, juste un petit passage. Qui n'a pas surpris un jour le Ventoux à tressaillir de ses plissements dans la lumière rasante du crépuscule? Qui ne s'est pas arrêté au pied de cette montagne pour admirer la couleur fauve des vignes, le doré des hêtres, le rouge des cerisiers, le feu des érables en automne? Qui n'a pas été giflé sur la calotte sommitale par le mistral hurlant? C'est d'où là où je parle de poésie, quoi. Vous êtes...
Il y a une approche poétique,
oui,
évidemment, qui est suggérée par... ce monde des contrastes. C'est-à-dire, oui, que le contraste, il se constate du point de vue du climat. Il fait très chaud dans la plaine. Mmh. On perd 12 degrés en montant. Le contraste naît aussi du changement de végétation. Oui. On passe d'un paysage de Méditerranée à paysage alpin.
C'est vrai.
Au sommet du Mont Ventoux.
Bah oui, on est presque à 2000 mètres quand même.
Tout à fait. Des fleurs de pierrier qui sont absolument extraordinaires. Donc, monde de contraste. Et je commence aussi la préface par ce qu'elle m'avait raconté. Donc, une personne de Pernes qui m'avait dit un jour, un peu comme si elle me tendait un piège, elle me disait: à qui appartient le Ventoux? Alors, moi, je savais que le Ventoux était partagé entre plusieurs communes, qu'il y a même des...
C'est très joli d'ailleurs, j'aime bien la réponse.
Des forêts qui appartiennent à l'État. Alors, j'égrenais les noms des communes tout autour, ouais, j'avais peur d'en oublier. Et puis, à la fin, il me dit: non, ça n'est pas ça. En fait, le Ventoux appartient à celui qui le regarde.
Exactement.
Et je pense que c'est une dimension importante du Ventoux, c'est qu'il faut conserver son identité, son unité. Et d'ailleurs, cette idée d'approche globale, c'est une idée assez récente. Ne pas découper le Ventoux par objet, par commune, mais plutôt lui conserver sa cohérence, son unité.
Alors donc, Franck Petit, vous avez écrit « Envoûtant Ventoux », édition donc universitaire d'Avignon. Donc dans cet ouvrage de, j'ai pas regardé combien il y avait de pages, mais il est quand même assez conséquent.
À peu près 200 pages.
230 et quelques. Et en milieu de livre, on a beaucoup de photos. Donc ce sont des photos que vous avez prises vous-même.
Voilà, ce sont des photos que j'ai prises moi-même. Et donc en fait, à la suite de promenades, souvent le dimanche, puisque pour bien connaître le Ventoux, il faut aller sur place, il faut l'observer.
Et oui.
Un des derniers chapitres, notamment, est consacré au recensement des jasses du Ventoux. Ce sont les bergeries temporaires, qui ont été construites pour la plupart au 18e ou au 19e, qui existent encore. Il en reste encore quelques
C'est impressionnant, tous ces jasses. Combien vous avez dit qu'il y en avait?
Alors, actuellement,
vous en avez répertorié?
Il y en a une soixantaine sur le Ventoux, mais il en reste entre 15 et 20. Qui sont dans un état, certes fragile, mais qui permet de se faire une idée précise de ce qu'était un jas au 19e et début 20e, c'est-à-dire un abri pour le troupeau, et puis très souvent aussi un abri pour le berger, puisque le berger, en fait, restait là toute la saison.
Et oui.
7 jours sur 7, pour les propriétaires, ils descendaient une fois par semaine à Bédouin pour retrouver leur famille, mais pour ceux qui étaient salariés, en général des jeunes du pays, qui n'avaient pas de famille, et ben ils restaient 7 jours sur 7. Ils avaient peu de congés. Ils descendaient une fois en septembre à la fête des bergers à Malocène pour retrouver un contrat pour l'année suivante. Ils vivaient non pas seuls, puisqu'ils se rencontraient aussi, notamment autour des sources et des fontaines. Et leur mode de vie était quand même très difficile.
Oui, sûrement, j'imagine.
Et puis dans cet ouvrage, vous trouverez aussi une approche... historique, une approche artistique,
oui,
une approche aussi sous l'angle de cette montagne sacrée. Alors, il est vrai qu'autrefois, le sacre était essentiellement religieux, mais petit à petit, je montre aussi que ce sacre est devenu laïque et sportif. Le Ventoux est connu pour être le sacre des
cyclistes. Sportifs, des cyclistes, voilà. C'est sûr.
Mais il reste une dimension religieuse à travers notamment la chapelle de la Sainte-Croix.
Sacré aussi, oui, comme vous dites.
Et puis le jas des pèlerins, c'était un lieu de pèlerinage important au 18e et surtout au 19e. toute une partie est consacrée, je vous l'ai dit, à l'approche artistique avec donc les peintres du Ventoux, les écrivains du Ventoux, les photographes du Ventoux, et puis aussi un paragraphe consacré au cinéma sur le Ventoux, parce que le Ventoux maintenant attire de plus en plus de cinéastes. Souvent sur le thème du sport et du cyclisme.
Oui, j'allais vous dire, dans quel cadre ?
Ben, par exemple, je pense à un film assez récent qui s'appelle Ventoux, qui a été donc tourné en 2015.
D'accord. Voilà. Donc vous parlez de tout ça aussi dans votre livre.
Oui, j'en parle aussi.
D'accord.
Tout à fait.
Très bien.
Et puis je l'aborde aussi sous l'angle de l'exploitation économique et touristique, et notamment il y a toute une partie consacrée au sport d'hiver.
D'accord. Alors Franck, qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Ce livre qui est sorti en 2016, c'est ça ?
C'est sorti en 2016.
Et vous l'avez écrit quand ?
Alors,
Commencé quand ce livre ?
J'ai mis 3-4 ans, voilà.
Oui.
Mais pas à plein temps. Hein.
Je
travaillais à côté,
bien
je rassemblais
sûr,
la documentation et puis les témoignages. Et petit à petit, j'ai eu envie de l'écrire. Et en fait, vous savez, ce qui m'a donné l'impulsion, c'est... Il y a 7 ou 8 ans, j'ai donc lu un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, de Jacqueline de Romilly, sur les chemins de la Sainte-Victoire, parce que c'est aussi une très belle montagne de la Provence,
tout à fait. Hein,
avec la Sainte-Baume.
Oui.
Et j'avais trouvé son approche assez exceptionnelle. Alors, ce n'est pas exactement la même approche, parce que de mon côté, il y a plus d'éléments d'histoire, d'éléments de géologie et d'éléments relatifs à la biologie. Mais il y a aussi des éléments, on va dire, d'émotion, comme vous l'avez vu, et donc qui montrent aussi que quand on peut gravir une montagne de cette allure, eh bien, on y trouve beaucoup de plaisir.
Donc Franck, vous êtes actuellement professeur à l'université d'Aix-Marseille, c'est ça ?
Voilà, je suis professeur de droit à la faculté de droit d'Aix.
Oui.
Voilà, ma spécialité, c'est le droit social, droit du travail. Mais vous savez, le droit ne peut jamais se comprendre sans une approche historique. Et donc, je pense qu'en effet, il y a un lien très fort entre le droit et l'histoire. Donc, ce n'est pas forcément un grand écart que de s'occuper de l'histoire d'une montagne et de s'occuper en même temps de l'étude du droit.
J'entends. Eh bien, écoutez, merci Franck Petit, merci d'être venu donc parler au micro de RTVF. Merci.
C'est moi qui vous remercie de votre accueil.
Merci. Franck Petit, docteur de la Sorbonne en 1997, maître de conférences à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse en 2008, doyen de la faculté de droit, d'économie et de gestion d'Avignon en 2011. En 2015, il est élu à l'Académie de Vaucluse. Il a reçu le prix Gaussier de l'Académie des sciences, Belles lettres et arts de Rouen, pour sa biographie du compositeur d'origine normande, Charles Le Nepveu, aux éditions Mare et Martin, en 2015. Je remercie vivement Franck Petit donc, pour son passage sur notre radio, car j'ai eu vraiment un très grand plaisir à l'écouter, me raconter le contenu de son ouvrage passionnant, et j'espère que vous aurez, vous aussi, apprécié cette interview. Alors, nous poursuivons cette émission avec un petit clin d'œil en guise d'hommage à Johnny, une chanson interprétée donc par Johnny et Patrick Bruel. Je vous laisse la découvrir.
Chaque fossette, la joie nous guette, c'est merveilleux, oui. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? y a des noisettes. Dans le chemin creux, y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus.
Les papillons s'en vont par deux, et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes se font des aveux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on attend?
Mais qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Oh, ouais. Hey, swing me.
Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux?
Pour être heureux,
qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête?
L'écho répète
des faits joyeux
et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux,
les cannes s'en vont au bal musette.
Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Mais qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oui.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Un deuxième invité pour cette émission, c'est André Morin. André Morin, président depuis septembre 2017 d'une association carpentracienne qui se trouve être la Bibliothèque Sonore au 114 rue Sadolé à Carpentras. Donc, André Morin, que j'ai rencontré aussi dans le cadre de la foire de Saint-Siffrem. Je vous laisse écouter cette interview.
Donc, monsieur André Morin, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur André Morin, vous êtes président de la Bibliothèque Sonore de Carpentras et président depuis septembre 2017.
C'est cela.
C'est ça. Voilà. Donc, avant, il y avait monsieur Craponne et juste avant, il y avait monsieur Max
Kessol.
Monsieur Max Kessol, voilà. Donc, vous avez repris la Bibliothèque Sonore en tant que président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette Bibliothèque Sonore qui est implantée depuis combien de temps sur Carpentras?
Une quarantaine d'années environ.
Ah oui, une quarantaine d'années.
Ouais. Je vais peut-être vous faire
un petit historique.
Des bibliothèques sonores au niveau national.
Oui.
Et après, c'est le Carpentras.
Bien sûr, hein. On vous écoute.
Donc, il y a 114 bibliothèques sonores en France. Il y en a à peu près une par département. Donc, pour le Vaucluse, c'est Carpentras. Il y a donc 100 000 titres enregistrés
en tout,
dans le fichier national.
Oui.
Mais bon, le but, c'est à Carpentras, nous avons des donneurs de voix. Ça veut dire que ce sont des gens qui enregistrent des livres. Donc, on les forme à l'enregistrement, on vérifie leur aptitude.
On travaille sur la voix.
On travaille sur la voix, au niveau technique de l'enregistrement.
Oui,
donc, ils font ça chez eux tranquillement. Voilà. Puis, donc, il y a un support.
En général, les donneurs de voix, ce sont des gens qui sont ou à la retraite ou qui ont du temps.
Souvent,
comment ça se passe?
Oui, c'est souvent des gens là.
Parce qu'il faut quand même du temps pour pouvoir lire un livre comme ça et l'enregistrer, parce que ça, c'est encore une autre étape. Le lire, c'est une chose, mais l'enregistrer, c'en est une autre, non?
Oui, mais enfin, bon, ils n'enregistrent pas d'un seul coup. Ils font des fichiers.
Oui.
Et donc, on récupère ces fichiers à la Bibliothèque Sonore. On contrôle la lecture, effectivement. Puis, on relit ces fichiers et on sort un CD sous forme MP3, maintenant.
D'accord.
Qui a remplacé
les anciennes
cassettes qu'on a toujours d'ailleurs, mais qui ne sont plus utilisées. Alors, ensuite, on a des audiolecteurs à qui s'adressent ces prêts de CD, MP3. Donc,
voilà.
On est reconnu d'utilité publique.
Oui, ben c'est sûr.
Et donc, on bénéficie de la franchise postale. Ça veut dire que toutes les semaines, nous expédions en franchise postale.
D'accord.
Les CD aux audiolecteurs
qui
nous les renvoient quand
gratuitement
tout est gratuit.
Ça c'est vraiment un service extraordinaire pour donc les personnes qui les non-voyants quoi, hein, ce sont que les non-voyants.
Donc à l'avenir on se dirige il y a un serveur national bien sûr où il y a plus de 100 000 titres comme je le disais tout à l'heure.
Oui.
On va de plus en plus vers le téléchargement, mais bon, c'est un peu compliqué parce que ça nécessite des gens non-voyants, c'est pas évident, donc il leur faut une aide. Et là, donc, le système P3 est très bien parce que c'est un lecteur avec des grosses touches.
Oui, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile.
Ça marche très bien.
Oui, voilà. Oui, c'est sûr.
Sur Carpentras, nous sommes 6 bénévoles.
Oui.
Donc on a des gens qui s'occupent du retour, de l'envoi et du retour des.
Oui. Des CD, là,
CD MP3.
Oui.
On a deux techniciens
qui
contrôlent
les enregistrements.
Voilà.
D'accord.
Voilà, donc moi, je suis le président.
Vous êtes là.
Je palie. Normalement, je sais tout faire. Donc.
Vous êtes censé savoir tout faire.
Voilà,
hein,
oui, voilà.
Est-ce que vous enregistrez des livres aussi?
Non. Il n'y a que ça que je ne fais pas pour l'instant. Peut-être plus tard, mais bon, j'ai beaucoup de travail.
Et oui.
Beaucoup de travail parce que bon, il faut, faut chercher des audiolecteurs.
C'est ça.
Donc, il y a un travail de profession.
Est-ce que vous êtes toujours en demande, donc,
justement,
d'audiolecteurs?
Oui. Moi, j'arrive, donc on va certainement publier des. On va s'adresser aux jeunes écoliers qui ont des difficultés visuelles, donc on va certainement
ouvrir
au livre scolaire, voilà.
D'accord.
Donc ça se faisait pas à Carpentras,
oui,
donc
on
va l'ouvrir au livre scolaire, voilà.
D'accord.
Ouais. Et on peut même publier des revues économiques, on est tout ça, mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité, on a beaucoup de choses
oui,
à faire.
Oui, ça, c'est encore notre domaine, quoi, je veux dire. Hein. Donc là, vous dites actuellement en demande aussi de donneurs de voix. Parce que vous avez combien actuellement de personnes qui donnent des voix pour.
Une vingtaine.
Une vingtaine de personnes.
Voilà, une vingtaine, oui.
Donc est-ce que c'est suffisant pour faire tourner.
Non, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent aussi, hein, au bout de tant d'années.
Et oui.
On recrute des donneurs de voix, parce que tout le monde n'est pas compatible, effectivement. Ouais. Mmh.
Voilà. Donc, vous disiez donc que c'est un service gratuit, tout le monde peut y avoir droit.
Il faut un certificat médical, il y a un contrôle.
Je veux dire, tout le monde, mais en tant que non-voyant.
Voilà. Aux déficients visuels. Bon, il n'y a pas que les non-voyants, il y a des gens qui
ont des difficultés aussi
pour lire.
Et oui. Donc voilà, il faut venir avec un certificat du médecin, là. Ouais. D'accord. En gros.
Nous sommes à Carpentras.
Rue Sadolé, c'est ça?
C'est ça. Nous sommes au 114 rue Sadolé à Carpentras.
Très bien. Est-ce qu'on peut vous téléphoner, justement?
Oui,
comment
tout
ça
à
se
fait.
Passe?
Donc,
vous avez des jours d'ouverture?
Alors, le jour d'ouverture, c'est le mardi.
Oui.
De 14h à 17h.
Oui.
Et le téléphone, donc c'est le 04 90 60 37 60.
Voilà, donc on peut vous contacter à ces moments-là, à ces heures-là.
Absolument.
Vous êtes disponible parce que là, vous êtes là dans ces locaux, donc au 114 rue Sadolé.
Oui.
Et vous êtes là, vous recevez donc des gens.
Oui, bien sûr, il y a des personnes qui assistent des gens en déficience visuelle qui viennent chercher des MP3 qui nous ramènent. Des MP3 déjà lus.
Oui.
Parce qu'ils habitent sur Carpentras, où bon, ils se déplacent. Sinon, on peut très bien les envoyer en franchise postale. Donc, le mardi, il y a un envoi tous les mardis et on récupère à la poste, effectivement.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre d'important sur cette bibliothèque sonore? Est-ce qu'elle a un nom particulier ou pas, où on l'appelle la bibliothèque sonore de Carpentras?
Non, bibliothèque sonore de Carpentras.
Oui. Voilà.
Quand tu as venu ça, on couvre pratiquement tous les départements parce que c'est la seule en Vaucluse. Voilà.
Eh bien, écoutez, monsieur André Morin, merci d'être venu parler au micro de RTVFM.
Mais je vous en prie.
Voilà, et puis donc, c'est pendant les vacances de Noël, peut-être, vous allez fermer un petit peu?
Oui, en principe, on ferme un mois l'été.
Oui.
Et puis 15 jours à Noël. Voilà.
Pendant la période de Noël, mais sinon à partir de janvier, on peut venir voir ou vous téléphoner.
Oui, tout à fait.
Très bien.
J'ajouterai que la bibliothèque sonore est une création des Lions Club.
Donc, c'est intéressant. C'est
les Lions Club
étiez l'ancien président.
L'ancien président en 2016-2017, voilà.
Très bien.
Voilà, donc ben c'est une émanation des Lions.
Pour cette précision importante aussi.
Voilà. Les Lions qui ont 100 ans en cette année d'existence.
Ouh là là, voilà. Un anniversaire important.
Mais bon, les Lions, c'est beaucoup de choses. C'est les chiens d'aveugle, c'est le Téléthon.
Voilà. Ça, c'est encore un autre sujet.
Et la bibliothèque sonore. Les bibliothèques sonores marchent très bien.
Oui.
Voilà.
Bon, ben, merci beaucoup. Merci, monsieur André Morin. Merci.
Je vous en prie.
Donc, pour plus de renseignements sur cette bibliothèque qui se trouve au 114 rue Sadolé à Carpentras, n'hésitez pas à leur téléphoner au 04 90 60 37 60. Une troisième pause musicale avec Christophe Maé, Je veux du bonheur. Et comme Christophe, en cette année 2018, je ne veux que du bonheur. C'est ce que je vous souhaite aussi à vous, chers auditeurs et auditrices. Du bonheur, rien que du bonheur. Christophe Maé.
Je veux du bonheur. Je veux de la joie. Qu'on m'éclate le cœur. Alléluia. Prends ma main, je t'emmène. Je connais le chemin. Il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud. On fera la peau à l'hiver. Oh non. Des milliers de cœurs résonnent au fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Prends ma main, je t'emmène. Un sentier, il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Je veux voir mes parents longtemps. Pourquoi pas leur parler encore mille ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants. Croiser l'amour à tous les carrefours. Me baigner dans des rivières de prière, ouais. Être béni des grands. Je veux de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, ouais. Je veux du bonheur.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Les petites annonces autour du livre. Avec bonheur de lecture, donc quelques dates à retenir. Dimanche 14 janvier à 18h dans la salle Frédéric Mistral à Villeneuve-les-Avignon pour l'association d'amitié franco-italienne de Villeneuve. Donc une lecture par Françoise Beau, Aude Marchand et Louis Rama. C'est le Décaméron de Jean Bocasse et c'est une traduction de Giovanni Clerico aux éditions Gallimard 2006. Cette lecture sera accompagnée à la guitare et au oud. Jeudi 25 janvier à 18h30 à Carpentras, donc même lecture au Petit Théâtre de la Charité. Donc là, simplement, c'est le lieu qui change, le Décaméron. samedi 3 février à 17h à la salle socio-culturelle de Jonquière. Alors là, c'est une lecture de Daniel Pénac, un roman qui s'intitule « Comme un roman ». C'est aux éditions Gallimard, 1992. La lecture est présentée par Louis Rama et Audemarchand. Et la musique, donc, c'est la clarinette avec Nicolas Constant. Un livre plein d'énergie pour fêter la lecture, nous dit Louis Rama. Une quatrième date, c'est le samedi 10 février à 17h à Mazan, dans la grande salle de la Boiserie, à l'initiative donc du Cercle républicain de Mazan et avec la participation d'autres associations républicaines laïques antiracistes. La lecture du livre de Albert Coin, « Ô vous, frères humains », donc aux éditions Gallimard en 1972. Lecture donc par Louis Rama, accompagné donc à la contrebasse par Vincent Boza. Un spectacle simple et bouleversant. Alors nous quittons Bonheur de lecture pour aller un petit peu plus loin, dans la Drôme, la 34e fête du livre à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc c'est la fête du livre jeunesse. Cette fête du livre aura lieu du 31 janvier au 4 février. L'accès libre, gratuit, et l'événement se déroule au gymnase plein soleil boulevard Saint-Vincent, donc 26-130 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Alors, au programme de ces 5 journées, il y aura 27 invités, 19 expositions, 29 animations hors la ville, 12 lectures, 16 ateliers, une projection, des auteurs, des rencontres, des inaugurations, 15 spectacles, de la musique, 4 prix, 2 vernissages, 3 petites éditions, 1 salon d'essayage, 3 concours, 1 conférence, 3 tables rondes, 8 petites enfances et 4 jeux. Alors, le thème de cette 34e fête du livre, le thème s'intitule « Rien ». Rien avec un point d'interrogation. Rien ? Vraiment rien ? On nous dit donc « Approchez-vous et regardez mieux ». Prêtez l'oreille et écoutez plus subtilement. C'est peut-être peu, mais ce n'est pas rien. Voilà donc les horaires de cette fête du livre commencent le mercredi pour se terminer le dimanche. Alors le mercredi c'est de 12h à 20h, le jeudi, vendredi, samedi c'est de 9h à 19h et le dimanche c'est de 10h à 18h. Il y aura aussi une restauration rapide sur place. Pensez à programmer cet événement. Une pause musicale de nouveau avec une chanson qui s'intitule « Tout le bonheur du monde » interprétée par les Kids United, qui est un groupe formé de 5 enfants, un groupe qui a été créé en 2015 pour une campagne de l'UNICEF France. Et il est parrainé par Hélène Segarra et Corneille, donc les deux chanteurs. Tout le bonheur du monde.
On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Devant vous.
notre lieu seulement parfois. J'ose espérer que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance.
On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Poursuivons cette émission avec une troisième et dernière invitée, Sarah Castillo-Palayé. Sarah qui nous vient de Jonquière et qui va nous parler du parcours qui l'a amenée à l'écriture. Avec ses trois romans déjà édités, un quatrième en cours d'édition pour cette année 2018. Nous écoutons Sarah Castillo-Palayé. Sarah Castillo-Palayé, bonjour.
Bonjour Annick.
Alors Sarah, vous êtes là pour présenter vos livres. Alors j'en vois donc trois et je sais que vous êtes aussi en train d'en écrire encore d'autres. Alors on va parler de vos livres. Donc votre nouveau qui s'intitule L'imprudence du chat. Alors parlez-nous un petit peu de ce livre qui est sorti là en 2017.
Tout à fait. Donc ce livre, L'imprudence du chat, c'est un livre que j'ai voulu volontairement différent des deux premiers qui avaient comme point commun la notion d'espace-temps. Et celui-là, j'ai voulu mettre en avant une passion qui est mienne, c'est-à-dire le tricot. Partant du tricot, j'ai monté l'histoire d'Anna, qui est un petit peu notre Bridget Jones à la française, qui est une jeune fille moderne, qui comme nombreuses autres jeunes filles, n'a pas de travail. Et en plus, celle-ci vient de se faire plaquer par son petit ami. Donc à travers ce livre et sa passion pour le tricot et son chat, j'essaie de raconter une histoire moderne où l'héroïne avec son amie et sa meilleure et sa grande sœur pardon, va évoluer dans la société actuelle et essayer de s'en sortir.
Donc ça c'est votre tout nouveau livre sorti donc là je disais en 2017, L'imprudence du chat. Alors en 2016, moi j'ai lu un petit extrait de ce livre Joe Roberts. Vous dites quelques mots sur ce livre?
Oui, alors Joe Roberts, Sixième Airborne, donc c'est mon second roman. Ça parle d'un jeune militaire québécois qui veut aider la France à se sortir de l'invasion nazie. Et le 6 juin 1944, il saute sur la Normandie, mais malheureusement, son saut en parachute se passe mal et il se réveille blessé dans un couvent de visitandines à Cabourg. Et là, les religieuses, à son réveil, lui disent qu'il n'est non pas en 1944, mais en 1920. Et là, il se dit de deux choses l'une. Ou c'est une ruse de l'ennemi, et les religieuses n'ont pas vocation à collaborer, ou effectivement, j'ai bien basculé dans le temps, et si c'est le cas, quelle est ma mission? Quel est l'objectif? Et surtout, qui est cette jeune fille Rebecca qui veille à son chevet?
Oui, justement, j'étais un petit peu intriguée aussi de ce personnage, la Rebecca. Quel rôle a-t-elle dans ce livre? Peut-être que vous n'allez pas nous le dévoiler, mais...
Non, je ne vais pas vous le dévoiler, mais elle a un rôle important à jouer, ouais. Puisqu'elle sera là pour veiller sur notre héros, Joe Roberts, et peut-être pour l'aider dans sa mission qui est bien présente.
Alors en 2014, à l'ombre des tilleuls où fleurissent les violettes aux éditions du Net. Alors là, c'est peut-être un tout autre style.
Alors, à l'ombre des tilleuls où fleurissent les violettes, c'est mon premier roman. Donc ça faisait quelque temps que j'envisageais d'écrire. Et lorsque ma fille a quitté le giron familial et est partie à Paris pour faire des études de cinéma, je me suis dit que c'était l'occasion de me mettre à l'écriture. Donc l'héroïne s'appelle Emma, comme ma fille. Celle-ci part à l'école du Louvre et non pas à la Sorbonne, comme ma fille. Et là aussi, comme je suis un petit peu intriguée par la notion d'espace-temps, j'ai voulu à travers ce roman jouer avec le temps. Et là, l'héroïne Emma va se retrouver dans le Montmartre des années 1890, à la Belle Époque, rencontrer des personnages célèbres comme Toulouse-Lautrec. Et surtout, elle va se rendre compte que si elle va à cette époque, ce n'est pas anodin. C'est qu'il y a un lien avec sa vie d'aujourd'hui. Donc il y a une intrigue, une romance, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque pour la jeune Emma.
Quels étaient vos livres quand vous étiez adolescente ou jeune adulte ?
Ouh, alors j'ai lu un petit peu de tout, je n'ai pas de style en particulier. Ouais. Alors bizarrement, j'ai lu beaucoup de livres policiers, beaucoup de livres de thrillers. Mmh. Et bizarrement, je n'écris absolument pas ce genre de lecture. Donc voilà, mais j'ai toujours beaucoup lu. La lecture a toujours une grande place dans ma vie.
Donc vous n'avez pas été inspirée par vos propres lectures en étant jeune, quoi ?
Absolument pas, non. Je cherchais un style vraiment personnel.
Comment vous avez été inspirée pour commencer à écrire et quand est-ce que vous avez commencé à écrire justement ?
Alors, j'ai commencé à écrire au début de la quarantaine, quand j'ai été un petit peu dégagée de mes obligations de maman, puisque mes filles ont un petit peu grandi. Et comment je me suis mise à écrire ? Ben, tout simplement, j'ai été inspirée pour La prudence du chat, par ma passion pour le tricot, pour À l'ombre des tilleuls, pour ma passion pour les tableaux. J'aime énormément les tableaux et je voulais qu'il se passe quelque chose à travers un tableau. Donc voilà, après ça peut être un mot, une scène, une image. Je suis inspirée avec peu de choses. Voilà. Lorsque l'histoire démarre, je l'ai entièrement en tête. Je connais l'histoire de A à Z. Et après, au cours de l'écriture, les personnages me guident tout de même un petit peu. Ils choisissent parfois de prendre des voies que je n'aurais pas prises au départ. Mais j'ai quand même les grandes lignes en tête lorsque je débute un livre.
Alors, vous avez donc d'autres livres déjà en cours ?
Oui. Alors, j'ai mon quatrième roman, Les Présages de juin, qui est terminé, qui est donc chez mon éditeur en attente d'impression. C'est un livre qui rejoint un petit peu L'imprudence du chat dans le côté moderne. Pas de saut dans le temps dans celui-là. Là, j'ai usé un petit peu des réseaux sociaux, Facebook, mais aussi, je voulais dans ce livre, qui est une histoire forte de femme, un secret. D'une mère à sa fille, que je ne vous dévoilerai pas, et qui va mener l'héroïne à se poser énormément de questions sur son passé et quel sera son avenir.
Alors Sarah, comment faites-vous pour écrire tous ces livres ? Comment faites-vous ? Parce que vous avez votre vie familiale, votre vie professionnelle. Comment est-ce que vous arrivez à trouver ce temps pour écrire ?
Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'exerce un métier en tant que profession libérale. Donc, je profite des périodes un petit peu plus calmes de mon emploi pour voler du temps au travail et l'utiliser pour l'écriture. J'ai un mari qui est charmant, qui comprend parfaitement mon besoin d'écriture et qui me laisse un peu le week-end prendre sur notre vie de famille pour écrire. Et voilà.
Je pense que vous allez écrire encore de nombreux livres.
Ah oui, je suis actuellement en cours d'écriture. C'est une passion, quand elle vous prend, je crois, ne vous lâche jamais. Donc voilà, oui, je suis en train d'écrire quelque chose de totalement différent encore, qui se passera pendant la Renaissance italienne et voilà, qui sortira pas avant 2019.
Alors, est-ce qu'on peut trouver vos livres un peu partout ?
Alors oui, ils se trouvent partout. Ils se trouvent en librairie, ils peuvent se trouver sur Internet. Il suffit de taper le titre ou le nom et ils sont tous facilement trouvables.
Est-ce qu'on peut vous contacter à quelque part, Sarah ? Est-ce que vous avez un site web ?
Alors, on peut me contacter via Facebook sans aucun problème en tapant Sarah Castillo-Palayer et je réponds évidemment à tous les mails.
Merci Sarah.
Merci Annick.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Je vais vous donner l'avis d'une lectrice au sujet de L'imprudence du chat. Alors, cette lectrice nous dit que cette histoire très positive va mettre un petit peu de baume au cœur aux jeunes femmes esselées, à celles qui attendent les opportunités professionnelles, avec une appréhension tristounette. Anna nous rappelle que si les choses peuvent parfois être difficiles, il y a aussi de grandes chances qu'elles soient belles, pleines de nouvelles possibilités, et que tout dépend de nous. Je recommanderai ce petit roman à mes amis sans hésiter. Là, je vais vous proposer un extrait du roman « L'imprudence du chat ». De Sarah Castillo-Palayer, « L'imprudence du chat », un livre qui est sorti en janvier 2017, en auto-édition façon LibriNova. Le quatrième de couverture. Depuis le départ de Paul, Anna mange, pleure et tricote. Lorsqu'une prestigieuse marque de laine organise un grand concours de tricot, Juliette et Mathilde y voient l'occasion de la sortir de son marasme, sans imaginer un seul instant qu'au cours de ce périple, elles noueront également les mailles de leur propre vie. un extrait donc de ce livre, L'imprudence du chat. Anna éloigna le téléphone de son oreille et mordit à pleines dents son coussin gris, perle et limé. Fidèle confident, toujours présent pour sécher ses larmes. Elle adorait sa grande sœur Juliette, et en temps normal, elle lui aurait retourné ses vannes avec délice et aurait fait monter les enchères. Mais, depuis que Paul avait demandé une pause dans leur couple, elle n'était plus qu'un immense puits sans fond, constamment à fleur de peau. Elle peinait à répondre autrement que par des cris ou des pleurs, et là, elle sentait qu'elle atteignait déjà ses limites. « Abrège, Juliette. J'ai une grande nouvelle pour toi. Tu quittes ton mec marié. » Juliette fit une pause, surprise par l'attaque de sa sœur, mais préféra l'ignorer, ne voulant pas rentrer dans une discussion stérile qui aboutirait à coup sûr à un conflit inutile. Elle la savait, fragilisée par sa récente séparation, et de ce fait lui pardonnait ses sautes d'humeur. « C'est une nouvelle qui te concerne, » dit-elle d'un ton enthousiaste. « Tu as vu les parents ?»« Oui, mais cela n'a rien à voir avec eux. » « Tu parles. »« Non, vraiment ?»« Bon, Juliette, accouche, je dois m'occuper de Burton. »« C'est bon, ton chat peut attendre 2 minutes. »« Lui peut-être, mais moi non. » Bon, écoute, j'ai dîné chez papa et maman hier soir. Et en feuilletant l'un des mots des travaux de maman, je suis tombée sur une annonce incroyable. Oui, figure-toi que Fil à Fil organise un grand concours de tricot le week-end prochain à Lyon et devine quel est le premier prix. Mon poids en laine. Oh, bien mieux, ma nana. La marque offre la prise en charge financière totale de l'installation d'un magasin de vente de leur laine, bien sûr, dans la ville que le gagnant choisira. Cela comprend 1 an de loyer, les éventuels travaux intérieurs d'aménagement, la mise à l'image de la boutique et un important assortiment de toute leur gamme de laine. Bref, de quoi laisser le temps à l'heureuse élue de se constituer une clientèle fidèle et de se créer une trésorerie suffisante pour poursuivre son entreprise. Et alors ? Ben, je t'ai inscrite. Quoi ? Hurla Anna, stupéfaite par le culot de son aîné. Mais tu n'es pas un peu folle ? Anna, tu adores tricoter. D'ailleurs, tu ne fais quasiment plus que cela depuis que Paul t'a quitté. Paul ne m'a pas quitté, dit-elle, la voix chargée de larmes. Il a juste demandé un break. Si tu veux. Mais en attendant, tu as du talent et toutes tes chances de gagner. Anna, tu as 25 ans. Tu es au chômage. Et je vois là une belle opportunité pour toi. Réfléchis-y, s'il te plaît. Non, non et non, dit-elle en raccrochant son téléphone fixe. Anna se blottit contre l'épaule silencieuse de son confident et laissa libre cours à sa peine. Juliette n'avait pas besoin de lui rappeler sa vie minable. Elle la connaissait par cœur. Un brevet de technicienne supérieure en commerce qui avait débouché sur des contrats à durée déterminée, ponctués par des périodes plus ou moins longues d'allocation chômage. Un appartement maintenant bien trop cher pour elle depuis le break imposé par Paul après 4 ans de vie commune. Si au moins elle était belle comme sa sœur. Mais ce n'était même pas le cas. Juliette était grande, élancée, le corps sculpté par 3 heures de sport hebdomadaire. Tandis que elle était plutôt ronde, du haut de ses 1m62. Chaque kilo pris formait une couche de gras supplémentaire sur ses cuisses, ses fesses, déjà bien rebondies. Et depuis le fameux break, elle avait comblé le vide laissé par Paul par des montagnes de chips, bonbons et chocolat. Heureusement pour elle, le tricot, qui nécessitait l'usage de ses 2 mains, l'obligeait à faire des pauses salvatrices pour son corps. Sarah Castillo-Palayer, L'imprudence du chat, en auto-édition façon LibriNova. 3 dates de dernière minute dans le cadre des petites annonces autour du livre. Alors c'est le samedi 20 janvier, de 10h à 18h, Luc Hérault, écrivain et éditeur, dédicacera ses 2 romans, Plagiat et Traque d'un Kabyle. Voilà, donc ces ouvrages sont édités aux éditions lapetitehelenedition.com. Voilà, et cette dédicace se déroulera à l'espace culturel Leclerc de Carpentras, samedi 20 janvier. une conférence diaporama sur le Ventoux de glace, de neige et d'eau. Et là, c'est une conférence, donc diaporama, par Franck Petit, donc l'auteur que vous venez de découvrir dans cette émission de ce mois de janvier, avec son livre « Envoûtant Ventoux » aux éditions universitaires d'Avignon. Alors, une conférence diaporama, c'est le 6 février à 14h30 à la Maison du Citoyen de Carpentras. C'est une conférence organisée par l'Association des anciens enseignants de l'éducation nationale. Et le 24 février à 16h dans la salle de la Poste à Mazan. Donc là, toujours cette conférence diaporama sur le même thème, le Ventoux de glace, de neige et d'eau. Toujours présenté par Franck Petit, et c'est l'Association philosophique, culturelle et sociale de Mazan et du Comtat Venaissin qui organise donc cette fin d'après-midi, car c'est le 24 février à 16h.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Merci chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une prochaine émission Autour du Livre. Bonne fin de soirée à vous.